mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Bonjour aux auditeurs, bonjour Catherine.
Bonjour Jean-Louis. J'aimerais que nous évoquions cette semaine l'intérêt personnel que nous pouvons trouver dans l'anthropologie de René Girard. Que nous enseigne-t-elle pour nous-mêmes? Quelle ligne de conduite pouvons-nous en tirer?
Commençons peut-être par une considération de caractère très général. L'anthropologie girardienne repose sur un double dévoilement, un effort pour dissiper deux illusions. La première illusion est celle de l'autonomie de nos désirs, et la seconde est celle de la culpabilité des boucs émissaires. Pour Girard, nos désirs ne naissent pas en nous par génération spontanée, mais par mimétisme, par imitation d'un désir manifesté par une autre personne qu'il nomme le médiateur. Ce mécanisme d'imitation engendre des rivalités qui contaminent toute la communauté. Les communautés archaïques surmontaient une telle crise par le sacrifice d'un bouc émissaire, l'unanimité s'étant établie pour lui en attribuer la responsabilité. C'est la deuxième illusion selon Girard, car les boucs émissaires sont presque toujours innocents. Leur sacrifice est un acte cathartique, pas un acte de justice.
Que donne cela dans une perspective individuelle?
Réfléchir sur soi-même avec la pensée de René Girard implique donc de se confronter à une double remise en cause. Nos désirs profonds sont peut-être imités et nos boucs émissaires personnels ne sont peut-être pas vraiment la cause des maux qui nous accablent.
Es-tu en train de nous dissuader d'une réflexion girardienne sur nous-mêmes?
Pas du tout, mais nous devons être conscients des risques. Découvrir que les options sur lesquelles nous fondons notre existence ne nous conviennent pas tant que cela, ou que nous sommes bien plus responsables de nos ennuis que ceux sur qui nous en rejetons la responsabilité.
Quel en est alors le bénéfice?
Nous avons tous besoin de vivre en vérité avec nous-mêmes, et l'introspection girardienne peut nous aider à y progresser.
D'accord, Jean-Louis. Pouvons-nous entrer maintenant davantage dans le détail?
Allons-y. D'abord, la question du mimétisme. Aujourd'hui, où l'individualisme de nos sociétés impose une obligation d'originalité, imiter est mal vu. Le mimétisme est pourtant la condition impérative pour accéder à notre propre humanité. Preuve en est l'aventure racontée par le film de François Truffaut, L'enfant sauvage. Ce dernier ne parvient pas à devenir pleinement un être humain, car il n'a pas eu d'être humain à imiter. La première question à examiner lors d'une introspection girardienne est donc: qui avons-nous imité? Qui nous a inspirés pour devenir ce que nous sommes? Bien sûr, nous avons imité nos parents, puis nos éducateurs, nos amis, et le cercle ne cesse de s'élargir au cours de notre vie. Mais le mimétisme est ambivalent. Il peut tout autant nous révéler à nous-mêmes que nous envoyer vers de fausses pistes. Comme ces personnes qui suivent des études de médecine et qui, au moment d'exercer, se dérobent. Ou pire, exercent quand même, mais en se sentant à côté d'eux-mêmes.
Pourquoi le mimétisme nous envoie-t-il sur telle ou telle piste?
À la source du mimétisme se trouve l'admiration. Nous imitons les gens que nous admirons.
La question devient donc, pourquoi admirons-nous quelqu'un?
Exactement. Dans la vision girardienne, nous admirons quelqu'un parce qu'il nous paraît avoir surmonté l'incertitude existentielle qui nous taraude. Qui suis-je? Que puis-je désirer être? De ce fait, nous sommes fascinés par ceux qui, selon toute apparence, semblent avoir la réponse à ces questions. Alors nous les imitons, nous cherchons à être comme eux. Mais le hasard et les circonstances peuvent nous entraîner dans des admirations qui ne conviennent pas à nos dispositions ou même soient néfastes. C'est le thème rebattu des mauvaises rencontres.
Comment éviter cela?
La vision girardienne nous incite à prendre une certaine distance avec ceux et ceux que nous admirons. C'est paradoxal puisque par définition, l'admiration met en sommeil l'esprit critique. Nous avons donc un effort à faire. Et cet effort doit être bien dosé. Il ne s'agit pas de détruire notre admiration et de renier leurs objets. Briser les idoles n'est pas une fin en soi. Il est préférable d'y chercher ce qui nous aide à nous développer de façon positive, pour nous-mêmes comme pour autrui.
quels autres enseignements découlent de la vision gérardienne du désir?
Jusqu'à présent, nous nous sommes placés dans la position de celui dont le désir est inspiré par un médiateur. Mais n'oublions pas que nous pouvons, à notre tour, être le médiateur de quelqu'un. C'est une position pleine de risques, car influer sur les désirs d'autres personnes donne du pouvoir, et la tentation est d'en abuser à son profit, et au détriment de ceux qui nous admirent, ce que font les manipulateurs. Sans aller jusque-là, un exemple est celui des mandarins, ces professeurs entichés de leur prestige et qui enferment leurs étudiants dans des vérités qu'ils pensent détenir. La clé pour jouer un rôle positif en situation de médiateur, c'est de garder à l'esprit les intérêts de ceux qui nous admirent et qui nous imitent. Mais hélas, il se trouve une configuration dans laquelle cette recommandation pose problème.
Laquelle ?
C'est lorsqu'en tant que médiateur, nous nous retrouvons en rivalité avec celui que nous avons inspiré. Prenons le cas très classique des relations amoureuses. Nous désirons une personne, et la manifestation de ce désir suscite celui d'un tiers pour cette même personne. Nous avons joué le rôle de médiateur, et nous nous retrouvons avec un rival. Que signifie dans ce cas garder à l'esprit ses intérêts ? Girard nommait « rivalité mimétique » ce type de rivalité née d'un phénomène de médiation. Voilà donc un autre point de vigilance. D'où viennent les conflits de rivalité auxquels nous nous trouvons confrontés ? S'agit-il de rivalité mimétique ? Affrontons-nous un rival parce que l'objet de notre rivalité nous importe réellement ? Ou parce que nous sommes mus par le dépit de le voir désirer cet objet et que notre but inconscient est de l'en priver ?
Et les conflits de pouvoir ?
Ils sont par nature des conflits mimétiques, où l'objet en jeu est la prééminence et la domination. Ils peuvent survenir partout, au sein d'un couple, dans la hiérarchie d'une organisation, ou bien à l'échelle géopolitique. Le triangle mimétique de Girard comporte trois positions, sujet, objet et médiateur. Nous venons de voir les risques qui pèsent sur les positions de sujet et de médiateur. La position d'objet mérite aussi une introspection. Il s'agit de repérer si nous ne sommes pas sur la pente du narcissisme.
Comment cela ?
Si nous occupons la position d'objet dans le triangle de Girard, cela veut dire que deux personnes au moins manifestent du désir pour nos activités, notre façon d'être ou nous-mêmes. C'est sans doute rassurant du point de vue de notre incertitude existentielle, mais cela peut aussi produire un contentement de soi qui est la première marche du narcissisme. Car n'oublions pas qu'une des grandes leçons de Girard est que l'objet est survalorisé par la rivalité mimétique. Si notre contentement de nous-mêmes vient de là, nous risquons fort d'être dans l'illusion d'une survalorisation. Une coquette n'est jamais si satisfaite que de voir les rivaux s'entre-déchirer pour elle.
En quoi est-il bon de se méfier du narcissisme ?
Revenons toujours aux analyses de René Girard. Le narcissisme est une illusion. Elle nous écarte donc de vivre en vérité avec nous-mêmes.
Jean-Louis, le terme de notre émission approche. Peux-tu revenir un peu sur la question des boucs émissaires ?
Le mécanisme est simple. Nous avons du mal à accepter la responsabilité des conséquences de nos actes lorsqu'ils sont dommageables pour les autres ou pour nous-mêmes. Nous nous sentirions coupables. Alors nous cherchons des excuses, nous renvoyons abusivement cette responsabilité sur d'autres. Ce sont nos boucs émissaires personnels. Cette attitude est non seulement injuste à l'égard de ceux qui se retrouvent accusés, mais elle nous est aussi personnellement nuisible, car, là encore, elle entretient en nous une illusion, l'illusion de notre innocence.
Pour finir, Jean-Louis, pourrais-tu formuler en résumé un petit vademécum de l'introspection girardienne ?
Question redoutable, Catherine. L'anthropologie de René Girard est d'une grande force et d'une grande richesse. Il serait bien présomptueux de prétendre la condenser en quelques interrogations. Je me contenterai de reprendre les quelques points que nous avons abordés. Mes choix ont-ils été, ou sont-ils encore, inspirés par des médiateurs ? Lesquels ? Qu'est-ce qui a suscité mon admiration à leur égard ? Suis-je en harmonie profonde avec ces choix ? Si à mon tour j'influence d'autres personnes, est-ce que je prends suffisamment en compte leurs inclinations et leurs intérêts ? Si je suis en conflit avec d'autres, l'objet du conflit est-il bien réel ? Ne suis-je pas engagé dans un conflit mimétique, dans lequel je cherche surtout à faire du tort à mon rival ? Mes activités, ma façon d'être, ma personne semblent susciter le désir d'autres gens. Est-ce que je n'en tire pas une satisfaction excessive? Se trouve-t-il des rivalités mimétiques qui m'illusionnent quant à mes réels mérites? Quels sont mes boucs émissaires personnels? Sont-ils vraiment responsables au point de soulager ma propre responsabilité? Voilà quelques questions que l'anthropologie de René Girard suggère dans la perspective de vivre en vérité avec soi-même.
Ce sera le mot de la fin. Au revoir, Jean-Louis.
Au revoir, Catherine. Au revoir aux auditeurs.